RCF.
Maurice Belet était prêtre. Il l'est resté jusqu'à la fin de sa vie, interrogeant avec intelligence le christianisme, l'Église et la foi elle-même, estimant qu'un travail critique était nécessaire à celui qui suit la voie de l'Évangile. Myriam Tonus, dans votre livre, vous dites que Maurice Belet était d'une pudeur infinie lorsqu'il s'agissait de parler de Dieu, lui qui était prêtre.
Tout à fait.
Pour quelle raison ?
Pour une raison qui est très traditionnelle et qu'on peut retrouver par exemple chez quelqu'un comme saint Thomas d'Aquin, c'est que Dieu, on ne sait rien à son sujet. Et c'est quelque chose que l'on semble avoir quelque peu oublié. Il aimait beaucoup se référer à l'une ou l'autre citation de la Somme théologique dans laquelle Thomas d'Aquin dit « Mais non, dire que Dieu existe, c'est encore le ramener à notre humanité. La seule chose qu'on peut dire, c'est on ne sait pas. » Et l'autre texte qu'il aimait beaucoup, c'est un petit livre anonyme du 15e siècle, anglais, écrit par un mystique, Le nuage d'inconnaissance, dans lequel le disciple demande au maître, mais dis-moi, qui est Dieu? Et le maître répond, je ne sais pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que je ne sais pas, mais que je frappe avec le chétif aiguillon de l'amour sur le nuage d'inconnaissance qui est entre mon Dieu et moi. Donc, je vais dire, il s'inscrivait quand même, même si ça peut paraître réducteur, mais dans le courant d'une théologie mystique, négative, apophatique, comme on dit. Ouais. Mmh. Oui.
Où les mots ne suffisent pas
non.
à décrire le tout
non.
autre.
Et surtout, il risque de l'enfermer. Parce qu'il est bien évident que quand on entend déployer avec immensément de talent et de bonne foi, mais enfin certains théologiens qui vous parlent de la volonté de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, comme s'ils prenaient leur petit déjeuner avec eux, bon, on ne sait rien de Dieu.
Concernant l'Évangile, Maurice Belet écrit « La parole qui se donne à cette écoute est une parole à manger, non pas à réfléchir et à conceptualiser. C'est d'abord une voix et non des choses dites. » Donc ça résume.
Tout à fait. Ah, au 6e siècle, on disait ça. Et même dans Ézéchiel, mange le livre. Le manger la parole, il est dans la Bible. Et donc ce qui est extraordinaire, c'est que Maurice Belet, qui n'était pas exégète, mais qui s'intéressait passionnément à tout ce qu'on pouvait lui apprendre sur la question, disait, mais oui, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on a pu en faire un discours sûr ?
Donc la parole en elle-même
oui.
porte
oui.
pour lui.
Elle
est, touche.
Tout à fait. Elle est, comme disent les linguistes aujourd'hui, elle est performante.
Ça veut dire quoi, ça ?
Alors, ce qui se trouve dans la Bible, trop souvent, c'est reçu comme des mots qui donnent une information. Mais ce n'est pas ça. Quand on lit une lettre de Paul aujourd'hui, elle est adressée aux Corinthiens peut-être bien, mais elle m'est adressée, elle nous est adressée à nous aujourd'hui.
Et la parole, par exemple, du Christ adressée à un personnage rencontré,
oui.
elle devrait normalement frapper en plein cœur.
Et l'expérience qu'on peut en avoir, c'est qu'effectivement, c'est une parole qui nous transforme. Et je pense que Maurice en avait fait l'expérience à partir de son expérience analytique, comme moi j'ai pu faire cette expérience à partir de mon travail avec lui. Oui.
Au sujet du Christ,
oui.
il a mis les pas dans celui du Christ en devenant prêtre et sa vie était ordonnée autour de cette suivance du maître, Jésus-Christ.
Oui.
Qu'est-ce que vous diriez sur sa façon de suivre le Christ ?
C'était quelque chose une expression qu'il n'utilisait jamais. Parce que, d'abord, je pense qu'il a vécu son ministère de prêtre, non pas du tout comme une fonction sainte, sacrée, sacrale. Voilà, il a dit « j'ai été ordonné prêtre à une période de ma vie où apparemment je ne savais faire que ça ». Et donc, quand il interroge la figure du Christ, il a écrit deux livres là-dessus, au Christ inconnu d'abord et puis Christ. Pour lui, c'est une figure centrale dans le christianisme et il pestait sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de croyants refusent d'entendre parler de la croix, disant non, c'est doloris, etc. Il dit non, dans le fond, le Christ, c'est la figure, et je pense que dans la plus grande théologie, on ne dit pas autre chose, c'est la figure d'une humanité qui est selon le vœu de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le Christ existait avant la création du monde, c'est-à-dire que c'est vraiment la réconciliation du ciel et de la terre, de l'humain et du divin qui sont dans toutes les anthropologies, dans toutes les mythologies, dans toutes les religions soigneusement séparées. Et donc, si un être humain peut incarner ce qui en principe ne lui est pas adressé, c'est une figure fantastique. Alors avec en plus le fait que c'est celui qui a traversé l'en bas, parce qu'il est mort dans des conditions qui sont celles qu'il a connues, c'est-à-dire mis à mort par la violence humaine, et puis Dieu le relève, autrement dit, il a traversé les enfers, vraiment. Et Christ, c'est une figure. Et c'est une figure qui est une espérance extraordinaire pour l'humanité, à la fois comme homme, puisqu'on voit ce que Jésus, comme homme, a eu comme attitude, y compris avant de mourir. Et puis en même temps, c'est celui qui est la manifestation, l'incarnation de ce Dieu que nous ne connaissons pas. Mais c'est encore une fois, c'est dans la chair.
Myriam Tonus, dans l'œuvre de Maurice Belet, il y a un livre déterminant, c'est le Dieu pervers. C'est une expression d'ailleurs qui est rentrée presque dans le langage commun.
Tout à fait, certaines personnes ne savent plus d'où elle vient.
Paru il y a 40 ans,
oui.
Qui développe une vision perverse du divin auquel il s'attaque, Maurice Belet.
Oui, tout à fait.
Résumez-nous l'objet de ce livre.
Alors, ce livre a une histoire, c'est à force d'écouter des personnes qui étaient prises dans les griffes, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, du Dieu pervers, qui en souffrait mille morts, notamment des religieuses ou des prêtres, qu'il a mis au jour en les écoutant, quel était le mécanisme qui pouvait faire que ce Dieu qui en principe veut notre vie plongeait des hommes et des femmes dans une telle détresse. Et en réalité, c'est ceci, mais vraiment très très résumé. Nous disons, et à juste titre, je pense que Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour, Dieu est d'un amour tellement grand. D'une part, alors, ajoutent certains, que nous ne pourrons jamais répondre aussi bien à cet amour. Parce qu'il y a évidemment là l'intervention, ce n'est pas Dieu qui est pervers évidemment, c'est les discours qu'on tient à propos de Dieu. Dire le Dieu pervers, c'est dire ce qu'on en a fait. Et donc on dit, mais nous ne serons jamais assez bien. Ça c'est une première chose, donc nous sommes mauvais, nous sommes pécheurs et Dieu qui nous aime tellement. Et donc allons-y, la culpabilisation infinie. Bon, Dieu est parfait en amour et moi, qu'est-ce que je suis ? Rien. Et deuxième chose, ça va au point que Dieu, parce qu'il nous aime, nous envoie le mal, nous fait souffrir. Par exemple, on perd un enfant et puis vous entendez encore aujourd'hui certains prêtres dire « mais voilà, Dieu vous l'a donné, puis Dieu le reprend pour lui ». Et qu'est-ce que c'est pour un père, c'est-à-dire un parent, qui aime infiniment ses enfants et puis qui en prend un, le meilleur, celui qui n'a rien fait, qui va souffrir pour tous les autres, qui va souffrir atrocement, de telle sorte que la colère du père soit évacuée après. Mais c'est ça, c'est ce qu'on appelle la perversion. La perversion en psychologie ou en psychanalyse, c'est lorsqu'une chose bonne est détournée de son objet pour se faire un instrument de destruction.
Donc l'idée, c'est un Dieu qui m'aime tant, je ne peux que tout donner,
ah,
tout sacrifier.
Je ne peux que tout donner. Et de toute façon, je serai encore bien en dessous de ce que je pourrais faire pour lui. Et donc, je dois reconnaître que je suis mauvais. Et donc, même si je donne tout, je serai encore en dessous. Il me racontait parfois, vraiment dans un grand anonymat, cette religieuse qui disait, qui lui avait dit un jour, « Dieu, c'est un salaud. Jésus, c'est un salaud. Pourquoi ? Mais parce que j'ai donné ma vie. » Et puis je suis malheureuse dans mon couvent, je souffre le martyr, ça ne va pas, j'ai l'impression que je ne crois même plus. Et je dois faire tout ça pour Dieu, je ne peux pas laisser, même ces pensées-là, je ne peux même pas les assumer. Je ne peux pas douter, parce que puisque Dieu ne doute pas de moi, puisque Dieu m'aime, puisque Dieu est à mes côtés. Enfin, c'est véritablement le parent bulldozer qui vous écrabouille au nom de son amour. Ceci fait, il y a des parents qui peuvent être comme ça, qui enferment leur enfant dans un amour qui est tellement englobant que l'enfant, il ne sait plus respirer.
Quelle est la porte de sortie ?
C'est d'abord de reconnaître que le parent est pervers, que ce n'est pas normal.
Et alors pour Dieu ?
Pour Dieu aussi, que c'est une vision de Dieu qui s'est imposée historiquement. dans l'Église, mais que si l'on écoute les évangiles, si l'on écoute même le Premier Testament, il n'en va pas du tout comme ça. Dieu ne demande pas... On peut tout à fait entendre aussi bien le sacrifice d'Abraham que la mort du Christ comme étant tout autre chose que la vengeance d'un Dieu qui a besoin d'expurger sa colère, hein, vraiment. C'est une manière d'entendre les Écritures. Or, le principe que Maurice Bellet mettait dans la dernière partie de sa vie en avant, c'est « les Écritures sont pour notre vie ». Si donc... j'entends quelque chose qui m'enferme dans la culpabilisation, dans la tristesse, dans le désarroi. Ce n'est pas que la parole est mauvaise, c'est que je ne l'entends pas bien. Et je vous assure, c'est une clé de lecture. Moi, je l'expérimente dans les groupes que j'anime ou dans des sessions. Ça demande un travail, évidemment, parce que parler du jugement, comment est-ce qu'un jugement peut devenir quelque chose de bon ? C'est véritablement là un travail théologique qui n'est pas réservé aux théologiens, qui devrait être celui de tous les croyants, mais qui permet de découvrir que cette parole est vraiment pour notre vie.
Une parole de vie.
Une parole de vie. Et si on ne l'entend pas comme ça, alors il vaut mieux, disait-il, ne pas... On oublie, on la laisse sur le côté. Et voilà, peut-être qu'un jour elle ne nous parlera, peut-être pas...
Par rapport à ce que vous disiez sur ce Dieu inconnaissable, c'est parce que l'homme a voulu apporter des réponses oui. à cette inconnaissance qu'on est
tout
tombé dans la perversion.
Voilà, tout à fait, exactement. On a fait, vous savez, je ne sais plus quel écrivain avait mis, je me demande si ce n'est pas Voltaire, Dieu a fait l'homme à son image, l'homme le lui a bien rendu.
À demain, Myriam Tonus.
À demain.